Fin octobre, France 24 a mis en ligne un nouveau site et une nouvelle application. Vous allez me dire, et alors ? Eh bien, je me suis dit que vous partager l'esprit derrière cette double refonte pouvait intéresser certains d'entre vous qui êtes férus d'actualité internationale. Car il y en a sans doute ici qui écoutent RFI et qui regardent France 24. Et qu'il est sans doute plus important que jamais de raconter comment est pensée la diffusion de l'information à l'ère numérique. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. À la radio, sa durée est de 20 minutes. Si vous êtes curieux et que vous choisissiez de nous écouter en podcast, c'est parfois un peu plus. Deux invités sont venus en voisin pour parler de la dernière mue numérique de France 24. Anne de Quinquelin, bonjour.
Salut Steven.
Tu es la directrice adjointe des environnements numériques de France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24. Stéphane Bernstein, bonjour.
Bonjour.
Tu es directeur adjoint de France 24 en charge du numérique. Alors je parle de sites et d'applications, mais il y en a plusieurs qui sont en fait concernés par ce nouveau lifting parce qu'il y a quatre langues pour France 24, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Ça change quelque chose dans l'approche d'une refonte d'un site et d'une application, Anne de Quinquelin, Stéphane ?
Allez, je me lance. Il était une fois le fait de parler à des utilisateurs mondiaux. Quand je parle d'utilisateurs, c'est les utilisateurs finaux qui ne vont pas avoir le même comportement suivant que tu es en Amérique du Sud, à regarder du contenu en anglais ou en arabe, suivant l'endroit où tu te situes dans le monde. Et surtout, on parle d'utilisateurs et on oublie, tu parlais tout à l'heure des environnements numériques. Nous, dans cette refonte et dans cette évolution des environnements numériques, on s'est aussi bien intéressé à nos utilisateurs finaux, ceux qui nous lisent, ceux qui consomment de la vidéo ou qui écoutent des podcasts de France 24, qu'à nos utilisateurs internes. Et en fait, on s'est aperçu que les pratiques, la manière de penser l'information numérique, elle était différente et complémentaire selon les gens avec lesquels on pouvait travailler.
Stéphane, toi qui supervises, qui dirige des équipes éditoriales, l'idée dans cette refonte, ça a été aussi de travailler avec les équipes techniques pour faire un projet conjoint qui réponde à la fois aux besoins éditoriaux et puis aux impératifs techniques du moment qui doivent être à la page.
Alors déjà, je juste ajouter un mot sur ta question précédente, c'est ça qui fait toute la richesse de France 24 en fait, c'est la diversité des publics et la diversité des nationalités des journalistes qui font tous ces contenus. Et cette mue numérique, comme tu l'appelles, nous permet encore une fois de favoriser un petit peu les partages de contenus entre langues et entre rédactions. Et oui, c'est un travail commun qu'on a fait avec la direction des environnements numériques. Il y a eu une volonté de la rédaction au départ un petit peu de moderniser un petit peu ces environnements qui étaient un petit peu vieillissant, on trouvait qu'on manquait de fonctionnalités, de moyens d'éditorialiser notre site internet. Donc, à la suite de ça, il y a eu des ateliers qui ont été montés par Anne ici présente, où dans chaque atelier, on essayait vraiment de diversifier un petit peu les métiers, que ce soit tant côté direction des environnements numériques, mais tant côté journaliste, parce que journaliste, comme tu le sais, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui corrigent, il y a des gens qui pas dirige, mais manage ou encadre. Et donc, on a essayé, dans ces ateliers, de représenter tous ces différents corps de métiers qui, tous aujourd'hui, travaillent avec ces nouveaux outils.
Anne de Quinquelin, l'idée, tu nous parlais, c'est à la fois d'avoir quelque chose qui soit au service, évidemment, des utilisateurs finaux, mais qui, au quotidien, est utilisé par des équipes éditoriales qui ont une agilité numérique variable.
C'est joliment dit, une agilité numérique variable. En fait, l'idée, c'était... J'ai toujours dit que le soutien titre ou le sous-texte de ce projet, c'était « Ce qui nous lie ». Ce qu'on a appris dans cette refonte, évolution numérique, je préfère, évolution numérique de France 24, c'est déjà à mettre des visages sur des prénoms. On est une grande maison, on est super nombreux chez France Média Monde, et la direction du numérique est une activité transverse, donc on travaille avec tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a moins ce temps qu'une équipe qui pourrait être dédiée à RFI ou à France 24. Donc déjà, on a pris le temps de se dire bonjour et de mettre des visages sur des prénoms. Et l'altérité de ce projet, pour moi, était essentielle, dans le sens où c'était un pari risqué, parce qu'on a eu très peu de temps, on a eu 7 mois pour tout faire. 7 mois pour repenser des sites, des applications en 4 langues. Je connais assez peu de médias sur la place parisienne qui auraient été capables de ça. Avec en plus cette confiance et cette nouvelle méthode dont parlait Stéphane, de se dire, on va faire pour le mieux, avec des objectifs clairs, et une fois qu'on aura testé les choses, on va continuer de s'améliorer. Maintenant, tu parles des pratiques éditoriales et des pratiques numériques. J'ai toujours un peu de mal avec ça, dans le sens où dire par exemple qu'une rédaction ne serait pas assez numérique, ce serait faire un peu, tu vois, une espèce de finger pointing, de dire « Ah, ils n'ont pas su se transformer, ils ne savent pas faire ». Et moi, la question que je me pose toujours, venant de rédaction et passant mon temps à faire des circonvolutions de transformation, c'est « Qu'est-ce que tu fais ?» pour faire en sorte que les gens, en fait, se transforment? Dans quel cadre de sécurité tu peux les mettre? Et puis, OK, maintenant qu'ils sont bien numériques, tu le fais pour qui? Et c'est là où c'est intéressant, et c'est le travail qu'on a fait avec Stéphane, de dire rendre visibles les gens pour qui tu produis.
Stéphane Bernstein, France 24, c'est une chaîne de télévision, mais avec l'idée aussi pour vous de se dire que vous produisez de l'information qui est diffusée sur toutes les plateformes, où le texte a son importance, avec une rédaction numérique qui produit des articles. Comment avez-vous voulu jongler entre la place donnée à la vidéo et l'importance du texte sur un site et une application ?
Alors, dans cette refonte, il y a eu deux grands axes qui répondent un petit peu à ces deux objectifs. Il y avait la volonté de remettre vraiment le direct au cœur de notre site Internet. Mais comme tu le dis, il y a de l'écrit et le média roi sur Internet, même si la vidéo, on parle de vidéo comme média roi, mais le texte reste très important. Google lit du texte, ne regarde pas les vidéos. Il sait qu'il y a une vidéo, mais il sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc, le premier grand axe, c'était le direct. Et donc, on a beaucoup retravaillé autour des live blogs. Aujourd'hui, on a un live blog qui fonctionne beaucoup mieux avec des nouvelles fonctionnalités. On a la possibilité de transformer quasiment toute la homepage du site internet en mode live blog. Donc il y a cet axe-là pour l'écrit. Et on a remis en avant également le live de l'antenne, le direct de la télé, parce que oui, France 24, nous sommes un site d'information adossé à une chaîne d'information en cas de langue. Et c'est, faut pas l'oublier, c'est vrai que c'est parfois un petit jeu d'équilibre quand même entre les deux, parce que certains médias vont faire le choix de reléguer toute la vidéo sur du replay et de faire de l'article uniquement sur les sites internet. Nous, on a fait le choix d'essayer de garder nos deux médias rois, entre guillemets, que sont l'écrit et la vidéo.
De ne pas les séparer.
De ne pas les séparer complètement.
Le direct est présent dès la homepage et en un clic, on peut lancer le direct ou lancer le dernier journal de France 24.
Alors, encore mieux que ça, le direct, il est en autoplay. Si on est sur une journée normale, il faut descendre un petit peu sur la home, on passe quelques zones de blocs de texte et on va trouver le direct un petit peu plus bas. Quand il y a un événement majeur qui est en train de se passer, on passe le site internet dans un mode qu'on appelle le mode breaking news pour les initiés. C'est quand il y a un événement hors norme qui se passe, on transforme notre site internet et dans ce cas-là, le live blog apparaît et juste à côté du live blog, l'antenne télé. Toujours en autoplay, donc même pas besoin de cliquer. Et en effet, le dernier journal est accessible par contre toujours assez haut sur le site et il nécessitera un clic pour le lancer.
Anne de Quinquelin, c'est un peu un tour de force de réussir à faire s'afficher tout ça et de réussir à faire tout s'afficher à la fois sur ordinateur, mais aussi sur une expérience mobile, puisqu'on sait que bien les lecteurs, les internautes sont de plus en plus sur leur mobile pour consulter de l'information.
Un tour de force, je pense que l'expression est bonne. En fait, tu sais, quand un média repense ses parcours utilisateurs, son site ou son application, les gens se contentent de ce qu'ils voient. Tu vois, une nouvelle page d'accueil, des nouvelles pages d'articles. Et en fait, l'exploit de cette refonte, c'est tout ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place, notamment au sein de notre outil de contribution, ce qu'on appelle un back-office, qui est l'outil dans lequel les journalistes numériques vont rentrer leurs articles, leurs sons, leurs vidéos, qui est un outil commun entre France 24 et FIMCD. Ça aussi, c'est une particularité chez nous. Un outil, trois marques médias. Et c'est les fonctionnalités qu'on a développées pour faire en sorte que France 24 puisse avoir cette fonctionnalité qui correspond bien à l'ADN de France 24, à savoir, je passe le site en breaking. Et qui pourrait être demain une fonctionnalité différente et complémentaire chez RFI parce que vous n'avez pas les mêmes publics, pas les mêmes audiences. Donc on a essayé de faire du générique, une fonctionnalité qui pourrait servir à tous, et en même temps de la particularité et du particulier. Donc j'aime bien dire aux équipes qu'on a fait de la haute couture sur un rythme de fast fashion.
Et en essayant donc de mettre des outils et des formats porteurs, Stéphane parlait du live blog, de vouloir vraiment l'intégrer dans le site, que ce ne soit pas juste un élément, une fenêtre au milieu du site un petit peu à part, mais que ça prenne pleinement la place que cela doit avoir sur le site.
L'outil du live blog, c'est une fonctionnalité minimale et obligatoire pour un site de médias tel que France 24 qui a cette culture du show. L'outil précédent que nous avions faisait le job, mais était assez mal intégré, avait un rendu assez désastreux et puis surtout ne correspondait pas aux attentes et aux besoins de la rédaction. Et pour moi, un des enjeux des nouvelles itérations qu'on doit faire sur France 24, c'est comment on trouve des outils, des solutions technologiques qui ont envie d'être au service d'une rédaction.
Et comment on les développe en interne aussi ?
Alors, en l'occurrence, financièrement parlant, développer cette typologie d'outils, aujourd'hui, c'est pas possible. Et tu sais, on dit souvent que les directions du numérique, elles veulent tout créer toutes seules, elles n'achètent jamais rien. On dit souvent que les DSI, donc les directions des systèmes d'information, elles achètent sur étagère et nous, on fait tout, on passe notre temps à développer. Et ben là, pour une fois, tu vois, on a un peu tordu le game et on est parti du principe d'acheter une solution technologique pertinente. Par contre, d'avoir une logique de leur dire « développez-nous quelque chose de particulier pour France 24 ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand une solution technologique vraiment pur jus se dit « Ok, c'est quoi un média public? Quel est le besoin de la rédaction? Et comment je vais travailler avec eux en co-construction ?» Et ça, c'est intéressant.
Petite parenthèse, j'ai travaillé à France24.com il y a fort longtemps. J'ai commencé là-bas à la fin de l'année 2010. Et alors, les live blogging étaient consacrés quasi exclusivement au sport, au football notamment, aux soirées football. Et sont arrivés les printemps arabes, notamment la Tunisie, l'Égypte, puis la Syrie. C'est à ce moment-là que France 24 a réellement commencé à faire des live blogging au quotidien sur des événements d'actualité. Stéphane Bernstein, est-ce que cette refonte a nécessité une adaptation des équipes éditoriales, de la formation en interne pour une meilleure prise en main des outils, ou ça a été assez transparent puisqu'au final ça a été digéré collectivement ?
Il n'y a pas eu de formation, de programme de formation à proprement dit, mais un temps d'adaptation, un temps d'appropriation, on va dire, du nouvel outil, parce que la manière d'éditorialiser nos contenus n'est plus la même, la manière dont on hiérarchise les informations n'est plus la même, et c'est quelque chose qui continue à évoluer au jour le jour. Mais si vous allez vous balader sur notre homepage, vous allez voir, par exemple, il y a un blog qui s'appelle l'essentiel de l'actualité.
Alors oui, parlons-en justement, l'essentiel de l'actualité du jour, hein, d'ailleurs.
L'essentiel de l'actualité, même pas du jour, de la minute, j'ai envie de te dire. Nous sommes un site d'information en continu. Donc c'est vraiment ce bloc-là, c'est quelqu'un qui arrive sur le site de France 24 ou sur un article de France 24, parce que ce bloc est un bloc qui est répercuté dans beaucoup d'endroits du site internet. C'est les 5 contenus qu'on pense que l'internaute doit consulter à ce moment-là. Mais on va pouvoir y retrouver des contenus télé, par exemple. Mais ça, typiquement, c'est un contenu qui n'existait pas avant. Donc le rédacteur en chef qui est aux manettes du site a cet outil-là en plus qu'il n'avait pas avant. Il faut qu'il apprenne à l'utiliser, savoir comment il va l'utiliser et quelle place ça prend. Et ça demande toute une gymnastique quand même de savoir que ce contenu se répète partout dans le site internet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des internautes fidèles qui vont taper dans leur barre de recherche France24.com, qui vont arriver sur la homepage de France 24 pour consulter nos contenus. Mais une grande partie de nos internautes arrivent via des moteurs de recherche. Donc ils vont arriver via un article et non pas via la homepage. Et une fois qu'ils auront lu cet article, ils auront ce bloc l'essentiel qui leur proposera d'autres contenus à consulter.
Stéphane, ce bloc l'essentiel, c'était une demande de ta part, de la part des équipes éditoriales, ou alors Anne, ça venait plutôt des enjeux et des demandes des utilisateurs finaux?
J'ai envie de dire un peu les deux. C'est comment est-ce qu'on imagine une fonctionnalité qui va répondre à un objectif, parce qu'on n'a pas parlé des objectifs de cette évolution, mais il y avait un des objectifs majeurs qui était la découvrabilité de l'offre de France 24, ou des offres de France 24, des typologies de contenu de France 24.
C'est un joli mot, hein, découvrabilité, hein. Ça nous vient du Québec, mais la découvrabilité des contenus, c'est magnifique.
J'aime bien le mot découvrabilité pour ce qu'il veut dire dans son sens profond, tu vois, au-delà même du contenu de découvrabilité, à quel moment t'acceptes de montrer ce que t'as pas forcément envie de montrer, ou au contraire de valoriser et donc de faire des choix. Tu vois, je trouve que c'est un mot qui est intéressant à tirer comme fil. Et pour revenir à ce bloc l'essentiel, c'était valoriser les offres ou l'offre, la profondeur de l'offre de France 24. Et en même temps, Stéphane en a parlé, on a des utilisateurs, et nous ne sommes pas les seuls, hein. C'est beaucoup le cas des médias, et nous en particulier, parce qu'on a cette chance d'être mondial, gratuit et libre. Et la notion de gratuité, j'aimerais bien peut-être qu'on y revienne un peu plus tard. On a besoin, par rapport à nos utilisateurs un petit peu opportunistes, d'avoir un endroit, un référent où ils peuvent se dire « Ok, qu'est-ce que je peux voir aujourd'hui sur France 24 ?» Donc il y a cette valeur de dire « France 24, c'est une télé, c'est une chaîne, d'accord, mais c'est aussi des offres numériques. » Et puis par rapport aux utilisateurs, de dire « Vous nous connaissez, super, voilà ce qu'on vous propose. » Valoriser le travail d'une rédaction et un choix éditorial, et aussi faire en sorte de dire « tu ne nous connais pas, c'est pas grave, voilà ce qu'on te propose, voilà qui on est ». Et tu vois, on parlait de découvrabilité, j'accepte de te dire qui je suis. Et je trouve que dans ce lien d'altérité, alors c'est peut-être moi qui suis très poétique, mais c'est vraiment ce qui nous a tenu à cœur sur cette évolution.
Stéphane Bernstein, en matière d'éditorialisation de cette homepage et du site, de proposer une expérience aux utilisateurs, France 24, c'est un média de service public et un média d'offres. Et justement, comment on articule les différents articles et les différents formats sur la page d'accueil de France 24? déjà, dans cette refonte.
Pour poursuivre les idées qui étaient évoquées juste avant, je dirais qu'on parle souvent d'économie de l'attention. Nous, on est dans un... pas dans une économie, mais on essaie de captiver les audiences et de les garder par intérêt. C'est-à-dire qu'on les attrape avec un article et on veut les garder le plus longtemps possible en leur montrant qu'on a beaucoup de contenu à leur offrir. Déjà, on regarde les chiffres hein, sur le numérique. Ce qui est pratique dans cette forme de journalisme, c'est qu'on sait tout de suite ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, si on se rend compte qu'il y a des formats qui ne marchent pas, ça nous permet de réadapter assez vite notre stratégie. Mais par contre, on garde toujours en tête cette idée de service public où, même si certains contenus sont moins porteurs, on voit aujourd'hui que l'environnement, la culture sont des sujets qui sont moins porteurs en termes d'audience, mais il fait partie de notre mission de les garder. Et pour ce qui est des types de formats, encore une fois, nous sommes adossés à une chaîne de télévision. Donc, malheureusement pour moi, ou pour nous, les gros des moyens de France 24 sont encore aujourd'hui dédiés à la télévision. Donc, on a beaucoup de médias vidéo à notre disposition, et ce qui nous permet d'avoir beaucoup de contenu à proposer sur le site Internet.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, nous parlons de la refonte des sites et applications de France 24 avec Anne de Quinquelin, qui est directrice adjointe des environnements numériques de France Média Monde, et Stéphane Bernstein, directeur adjoint de France 24 en charge du numérique. Stéphane, tu nous parlais tout à l'heure de l'enjeu de la notoriété de marque de France 24 qui fait qu'il y a au final beaucoup d'utilisateurs qui arrivent directement sur la page d'accueil de France 24 et qui ouvrent l'application de France 24. Anne, j'aimerais aussi qu'on parle de l'esprit derrière cette refonte avec un enjeu qui est le fait que l'ère de la recommandation via les réseaux sociaux est en train de connaître une petite évolution, puisque certaines plateformes comme Facebook sont moins pourvoyeuses de trafic pour des environnements médias comme les nôtres.
Oui, je dirais que c'est malheureusement pas une surprise non plus, hein, le côté les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux ont une relation très je t'aime moi non plus avec les médias. C'est-à-dire qu'ils ont été très contents de trouver les médias il y a 10 ans, 8 ans, ne serait-ce que pour avoir des contenus qualifiés dans leurs environnements. Et puis quand même, assez rapidement, on s'est retrouvés, c'est un on collectif, à se dire que c'était chouette de faire des choses avec eux. Et je pense notamment au super joli projet Facebook Live en 2017, qui a permis à plein de médias qui ne venaient pas de l'univers de la vidéo ou qui avaient une appétence sociale un peu petite, de grandir. Et c'est vrai que quand on est dans une collaboration technique ou de GAFAM vers les éditeurs avec la possibilité d'avoir de l'argent et de créer du contenu, c'est toujours super intéressant. Là, ce qu'on constate quand même globalement, c'est que ils sont devenus mass médias. Ils ont très bien compris les codes des médias et ils ne veulent plus des médias sur ces environnements. Et toi, tu le sais et tu le suis quand on voit ce qui s'est passé au Canada, notamment avec Facebook et cette volonté d'exclure les contenus des médias de ce réseau social pour en faire autre chose. Il y a une vraie réflexion à avoir, de se dire, ok, maintenant, comment on va chercher les gens différemment et comment on va justement les réengager.
Même s'il y a des projets éditoriaux qui sont encore portés par Facebook aujourd'hui, on en a dans le groupe France Média Monde.
Mais l'idée pour vous, c'est de faire que les utilisateurs viennent sur les environnements numériques de votre marque média, de France 24, y restent, faire que aussi les utilisateurs installent l'application de France 24.
Je dirais que c'est du « et ». C'est dû, on est mondial et on a un objectif de faire en sorte que nos contenus soient lus, vus, consommés, quelles que soient les plateformes. On parlait de gratuité tout à l'heure, d'informations journalistiquement vérifiées. Je pense que ce sont deux valeurs qui sont dans le cœur de France 24 et des marques médias de France Média Monde. Donc on se doit, entre guillemets, d'être partout. Et c'est là où on est dans un équilibre compliqué. On sait très bien que les publics qui vont venir nous consommer sur le site ou sur l'application ne sont pas ceux qu'on va aller toucher sur les réseaux sociaux. Donc ça attire plein de questions. Tu parlais de l'application, et Stéphane le disait, on a des utilisateurs très engagés sur l'application, beaucoup plus fidèles, qui vont rester quasiment 9 minutes sur l'application, qui vont avoir une consommation que je qualifie moi un peu de consommation doudou, parce qu'ils connaissent la grille des programmes par cœur, ils ont leurs émissions fétiches, donc on travaille beaucoup la personnalisation, et on va continuer de le travailler au mois de janvier et sur T1 2025. Là où sur le site, on a plutôt des opportunistes qui ont une super info, qui viennent et qu'on essaie de conserver. Donc c'est pas la même approche. Et même pour nous, dans la manière dont on communique avec les rédactions et où on essaie de partager de la donnée sans noyer les gens, parce que c'est aussi un peu l'enjeu, on essaie de travailler cette affinité. J'en reviens à cette allégorie de la haute couture sur un rythme de fast fashion. Mais tout est vraiment très en... On parle beaucoup d'itération ou d'amélioration continue. Et c'est pas le même temps là où l'actu a un temps d'actualité qui est l'immédiateté. Nous, on est dans un temps où on a un peu plus de temps.
Stéphane Bernstein.
Bah, sinon, si on parle d'image de France 24, c'est pour ça qu'il y a eu le gros travail de cette mise en ligne, c'est fait autour de la homepage, de la page d'accueil de notre site. Parce que on avait envie qu'elle devienne un vrai carrefour de l'information, que les gens viennent sur cette page d'accueil pour y consulter directement de l'information, que ça devienne, redevienne une page un petit peu référente. C'est pour ça qu'il y a eu ce bloc de l'essentiel de l'actualité, c'est pour ça qu'on y trouve l'antenne en direct, c'est pour ça qu'il y a ce mode breaking news qui existe. Parce que vous l'avez dit tous les deux, les réseaux sociaux comme levier de trafic magique vers des sites d'information, c'est terminé. Aujourd'hui, on est très dépendant des moteurs de recherche, Google pour ne pas le nommer, mais on voit bien qu'ils sont en train de prendre un chemin un petit peu différent. L'intérêt de Google, c'est pas que les internautes viennent chez France 24. L'intérêt de Google, c'est que les internautes restent chez Google. Donc à terme, on risque de perdre en tout cas ce levier de trafic-là. Donc notre intérêt, c'est que la marque France 24 grandisse dans les esprits et que les gens tape directement www.france24.com dans leur barre d'URL, plutôt qu'arriver via un moteur. Et on a cette chance qu'aujourd'hui, les audiences de France 24, elles sont très hétéroclites en fonction des supports sur lesquels ils nous consultent. Si la télé en français, par exemple, le bassin d'audience, c'est l'Afrique francophone, le site internet en français, c'est entre 50 et 60% la France. Mais donc, on peut se servir du média télé pour essayer de conquérir des audiences en Afrique francophone pour le numérique. Parce qu'on voit dans ces zones-là, les usages sont vraiment en train d'évoluer. Si, il y a quelques années, on avait du mal à les toucher pour des questions de data, pour des questions d'accès à Internet, tout ça est en train de bouger et ça va très très vite.
Donc il y avait des besoins spécifiques à une époque qui nécessitaient d'avoir un site qui soit léger, fluide, il doit toujours l'être. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse aussi sur la notion de publicité, puisque Anne, tu parlais d'un site qui est gratuit, effectivement, mais il y a aussi des formats publicitaires qui peuvent agacer parfois certains internautes.
À l'éternel débat sur la publicité. Là-dessus, moi je suis plutôt agnostique. Pourquoi ? Parce que basiquement, l'argent fait vivre les médias. C'est triste, mais c'est un fait. Ces revenus publicitaires, on ne peut pas s'en passer, encore moins dans une année budgétaire 2025 qui est toujours en questionnement, nous concernant. Il y a toujours des travaux qui sont faits, et notamment, je pense à des blogs que vous voyez chez nous, mais que vous voyez ailleurs, avec un acteur qui s'appelle Outbrain, qui fait de la recommandation de contenu.
C'est les blogs qu'on a en bas des articles.
Exactement.
Avec de recommandations pour aller vers d'autres sites. C'est pas toujours très très qualitatif, mais on peut avoir tout de même un petit peu la main dessus pour éviter que ça parte dans tous les sens.
Exactement, sur lequel on a demandé justement à ce partenaire et à cet acteur de faire en sorte, un, qu'il améliore la typologie de contenu qui est proposée, et deux, qu'il y ait plus de transparence sur combien ça génère, qu'est-ce que ça nous rapporte, et comment faire en sorte justement que ce soit plus d'argent et encore mieux intégré. Et tout ça, ce sont des choses qui se font de manière, comment dire, co-construite. C'est vrai que nous, on est éditeur, donc on a une posture d'éditeur de dire, attendez, il faut que ce soit intégré correctement dans nos offres et où en même temps on nous demande de générer des revenus. Et j'avoue que la quadrature du cercle aujourd'hui, j'ai pas encore réussi à trouver la formule parfaite. On a toujours des gens qui vont nous dire il y a trop de pubs, d'autres qui vont nous dire on ne voit pas la pub. Le sujet de la pression publicitaire est de toute manière quelque chose qu'on essaye de suivre du mieux possible et qui continuera de nous occuper l'année prochaine.
J'aimerais que l'on reparle de l'expérience utilisateur. Quelle est la proportion de lecteurs de France24.com et d'utilisateurs de l'appli, enfin entre ordinateur et mobile actuellement ?
Alors, on est majoritairement sur des utilisateurs mobinautes, Stéphane le disait, et majoritairement sur du web mobile.
C'est-à-dire 80% mobile,
non,
80...
Bah, non. On est à 60%, 60-70% sur du mobile, 25-30% sur du desktop. Sur ces 60-70%, il va y avoir 15-20% d'applications et le reste en web mobile.
Et dans ces applications, c'est principalement Android et un petit peu de Apple, iOS ou...
Principalement Android.
Principalement de l'Android. Ok. J'aimerais aussi qu'on fasse une petite parenthèse puisque France 24 utilise de plus en plus les chaînes WhatsApp. La chaîne WhatsApp de France 24 est à 4,4 millions d'abonnés au moment où on se parle, Stéphane Bernstein. Y a-t-il eu une volonté aussi de mettre en avant WhatsApp sur la page d'accueil de France 24 et de faire exister ça sur les sites et applications ?
Pour l'instant, la chaîne WhatsApp n'est pas en elle-même mise en avant sur les environnements, mais comme le disait Anne, on est en évolution permanente. Il y a beaucoup de choses, parce que quand on a fait ces ateliers entre journalistes et direction des environnements numériques, il y avait beaucoup d'envie de faire beaucoup de choses, mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est parfois difficile, parfois on se rend compte, ouais, on aimerait bien faire comme CNN, ah, mais on n'a pas les mêmes moyens que CNN. Donc on est obligé de revoir un petit peu nos ambitions à la baisse, mais toutes ces idées qu'on a eues, elles sont encore notées dans des petits calepins, et c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure dans les mois et l'année prochaine. Donc la mise en avant de la chaîne WhatsApp est une piste. Également, pour l'instant, on n'a pas pu mettre à disposition les vidéos en vertical sur nos environnements propres. Ça, c'est quelque chose qui va arriver vite et qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, la vidéo en vertical est un média très utilisé chez France 24 et on a envie de l'utiliser vraiment sur nos environnements propres.
Juste pour reparler de WhatsApp, il y a quelques mois, en tout début d'année, je recevais Sylvain Mornay qui me disait que WhatsApp était le premier pourvoyeur social de trafic pour France24.com et était passé devant Facebook. Est-ce toujours le cas ?
Ça se titille à la tête parce qu'on a vu une remontée de Facebook sur nos contenus news depuis cet été qui est assez significative quand même. Et donc on ne sait pas pourquoi, mais on constate ça avec plaisir. On voit que quand même les formats de vidéos verticales sur Facebook, les Reels, marchent très fort et ça contribue sans doute à cette remontée. Et depuis cette remontée, du coup, Facebook revient un petit peu au niveau de WhatsApp. Mais c'est vrai que WhatsApp avait pris le devant pendant quelques mois. Voilà. Après WhatsApp, on est sur quelque chose d'assez différent quand même. Facebook, il y a toujours, il y a de la consommation de vidéos, propose toujours quand même le lien vers le site internet. On est sans doute sur un utilisateur qui a une connexion internet assez puissante vu qu'il est sur Facebook. Tandis que WhatsApp, on peut être sur des utilisateurs qui ont une connexion internet très basse et qui au final vont peut-être juste lire le message. Mais bonne nouvelle pour nous, encore une fois, il y a quelques semaines, Meta a mis à disposition des analytics de WhatsApp. Pour les non-initiés, les analytics sont les données
d'utilisation, sur les utilisateurs, etc.
D'audience, tout ça. Avant, on était un petit peu dans le noir et aujourd'hui, on a accès à ces données. Et donc, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et de remonter aussi à nos directions, on va dire, les audiences que nous réalisons sur WhatsApp et qui sont quand même assez conséquentes.
Anne de Quinquelin, donc directrice adjointe des environnements numériques de France Média Monde. Dans cette refonte aussi de France24.com, des sites et applications, on sait que certains médias font le pari de la personnalisation de l'expérience via du tracking ou la possibilité parfois de s'inscrire, de se loguer pour bénéficier d'un certain suivi et donc d'articles spécifiquement mis en avant en fonction de ce que l'on a consulté par le passé. Qu'en est-il sur France24.com et sur vos sites et applis ?
La personnalisation, quand tu travailles déjà en quatre langues, est un sujet. La personnalisation nécessite effectivement des publics qui vont accepter de donner une adresse mail pour une promesse éditoriale. Et ça sous-entend des offres dédiées, natives, qui te permettent, en t'abonnant, d'avoir quelque chose de plus. Aujourd'hui, Stéphane le disait très justement, les moyens côté numérique France 24 existent, mériteraient d'être boostés, soutenus au prorata de tout ce qu'il y a déjà à faire. Donc la question que ça me pose, c'est moi j'adorerais faire du logging, mais pour qui et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on leur propose en fait ?
Donc la personnalisation, elle est possible pour les applications en niveau 1 et elle va arriver.
Ouais.
Mais pour tout le reste de nos environnements, ça nécessite du login et on parle de 80-85% de notre audience. Donc,
On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Y a-t-il de l'IA, Anne de Quinquelin, dans cette refonte de France24.com ?
Alors, il y a de l'intelligence humaine, et ça c'est déjà très très chouette. Il y a de l'IA qui va arriver dans l'outil de contribution des journalistes, donc le fameux back-office. Il y a énormément de tests de solutions techniques pour trouver la meilleure IA, parce qu'en fait, ce sont des IA selon les besoins. Par exemple, une IA qui serait très bien en sous-titrage ne sera peut-être pas super pour faire autre chose. Donc, on a eu besoin de cartographier les besoins éditoriaux. Et puis, je crois aussi, en fait, qu'il y a eu beaucoup de prudence et de raison gardée sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, des vrais sujets de déontologie. Que moi, mon enjeu, c'est de trouver des solutions technologique pour permettre aux rédactions de mieux produire. Tu vois, ma réflexion, elle est comment je facilite le travail des gens qui travaillent dans les équipes numériques. Et c'est vrai pour RFI, France 24 et MCD. Et mon sujet de 2025, ça va être de faire en sorte que l'outil de contribution puisse aider et soutenir les journalistes pour qu'ils puissent se concentrer sur l'information.
Stéphane Bernstein, l'organisation de la page d'accueil de France24.com et son application est réalisée par des êtres humains, par des journalistes ici, à la main.
C'est ça.
Non, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, France 24 est avant tout un média de service public. Donc on a un contrat avec nos audiences. Donc on ne peut pas se lancer dans l'aventure intelligence artificielle sans des règles clairement édictées. Et aujourd'hui, il n'y aura jamais un contenu ou une zone du site administré par une intelligence artificielle sans qu'il y ait un contrôle humain derrière ça. Et donc on pourrait sans doute demain développer par 10 la fabrication de contenu chez France 24, mais on n'aurait pas assez malheureusement d'êtres humains pour contrôler tous ces contenus après, donc on ne pourrait pas les publier.
Voilà, vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast dès maintenant, allez dans Google Play si vous avez un téléphone Android ou dans l'App Store si vous avez un iPhone et téléchargez ou mettez à jour l'application de France 24. Avant de terminer, j'aimerais qu'on parle et annoncer le Challenge App Afrique 2025 dont l'édition vient d'être lancée. Elle est dédiée à l'eau, donc c'est ce prix que RFI et France 24 lancent chaque année. On en est à la 9e édition. Le thème cette année, donc, c'est le numérique au service de l'or bleu. C'est un concours porté par les émissions C'est pas du vent de RFI et Tech 24 de France 24. Rendez-vous sur appafrique.rfi.fr. Un petit mot là-dessus, Anne de Quinquelin.
Faire du sens et essayer de faire les choses justes, oui, ça me parle.
Oui, mais encore une fois, service public. C'est notre mission d'inciter les gens à créer ce type de projet. Et en effet, l'eau en Afrique est une question majeure. Et je sais que chaque année, le Challenge App choisit des thématiques qui sont quand même très...
dans l'air du temps.
Dans l'air du temps, enfin même vital, on va dire.
Merci beaucoup Stéphane Bernstein, directeur adjoint de France 24 en charge du numérique. Et merci Anne de Quinquelin, directrice adjointe des environnements numériques de France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24. Je vous dis à bientôt, évidemment, dans l'atelier des médias.
À bientôt.
Salut, Steven.
C'est la fin de cet atelier des médias que vous pouvez comme toujours écouter dans une version plus longue en podcast. L'entretien d'aujourd'hui a dû durer quelque chose comme une quarantaine de minutes environ. Choisissez pour nous écouter la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore RFI Pure Radio, l'application entièrement dédiée au contenu audio de RFI. Installez-la, celle-là aussi. Simon de Creuse a enregistré et réalisé l'émission que vous venez d'écouter. Si vous voulez nous écrire, voici notre email, atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.